les interviews de Fréquence Terre, Frédéric Bénaud.
Chaque semaine, vous le savez, nous avons rendez-vous dans les rédactions du développement durable. Et une fois n'est pas coutume, nous allons dans la rédaction de cdurable.info retrouver Cyril Souche qui représente le site bourré d'informations. Bonjour Cyril.
Bonjour Frédéric.
Alors on est dans l'actualité, hein. J'ai repéré cet article sur la sécheresse. Et si la bio avait des réponses, c'est la question que vous posez. Des producteurs d'Antaka témoignent. Alors vous allez présenter Antaka et nous dire un petit peu quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées pour l'agriculture biologique. J'étais étonné de ne pas voir dans leur panel de choix le stockage de l'eau.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une des premières idées qui vient à l'esprit. Je sais qu'à l'endroit où on est implanté, ici en Cévennes, un élu local nous disait qu'on ne récupère que 1% des eaux de pluie, donc qui transitent sur le territoire, mais qui ensuite s'échappent et partent dans les rivières. Donc c'est vrai que c'est la première idée qui vient à l'esprit, c'est de stocker ou de récupérer l'eau qui tombe, mais on s'aperçoit en fait que face à la sécheresse, il y a une technique qui est vieille comme la culture hein, du sol, qui est l'agrobiologie, qui elle propose des solutions très simples et de bon sens et qui permettent de résoudre la quasi-totalité des problèmes de sécheresse qu'on connaît actuellement sans avoir besoin de stockage, de canaux, de tuyaux de collecte, etc.
Alors vous faites aussi l'opposition avec la FNSEA qui finalement ne fait que se plaindre et donner des subventions. Quelles sont les solutions que proposent donc ces gens d'Ataka? Qui est Ataka déjà?
Alors Ataka c'est une SCOP, donc une coopérative ouvrière de production, donc ce sont des producteurs qui, face au même problème que tous les producteurs, tous les agriculteurs, comme les éleveurs en France et sans doute un peu partout dans le monde, ont dit stop au système dominant d'élevage extensif, de culture extensive, d'utilisation massive de pesticides, de produits entrants qu'on achète, qu'on transporte avec des outils et du matériel extrêmement consommateurs de ressources fossiles, hein, comme les tracteurs par exemple, pour ensuite épandre tous ces produits sur les cultures. Eux, ils sont vraiment allés chercher la simplicité et le bon sens qui faisait que les cultures, avant toute cette technologie, avant tout ce progrès, fonctionnaient très bien. Et c'est vrai que la FNSEA est plus représentative de très grandes exploitations agricoles, qui sont des champs à perte de vue, qui ne peuvent être cultivés que par des agro-industriels, c'est-à-dire en fait des industriels de l'agriculture, qui ont des machines-outils extrêmement lourdes et performantes, mais qui utilisent énormément de produits.
Voilà, avec des logiques communautaires où on leur dit vous produisez du maïs parce qu'on en a besoin et puis vous allez avoir des subventions. Rentrons dans le vif du sujet, quelles sont les techniques qu'ils appliquent?
Alors, des techniques qui sont simples comme... c'est vraiment les recettes de grand-mère, sauf qu'elles marchent. Par exemple, un sol vivant retient plus d'eau. Ça paraît simple comme ça, mais c'est vrai que toute la décomposition des matières organiques forme l'humus, et cet humus est un peu comme une éponge qui peut stocker d'importants volumes d'eau et qui, bien évidemment, va être restitué ensuite aux racines. Or, qu'est-ce qu'on constate ? En agriculture conventionnelle, toute cette microbiologie du sol, elle est tuée à la fois par le labour, on en avait parlé ensemble, et par les pesticides. Donc le sol, c'est plus qu'un support minéral, il est incapable de stocker l'eau, ni de la restituer, et donc elle s'échappe au mieux dans les nappes phréatiques en fond, au pire, elle ruisselle, et ça donne les glissements de terrain habituels. Cherchez l'erreur, il n'y a plus aucun cycle de formation à la microbiologie des sols en France depuis la disparition de ce secteur à l'Institut Pasteur.
Voilà, puis après, pareil, on connaît le circuit des agriculteurs qui veulent se lancer dans le bio et qui ne trouvent pas forcément d'interlocuteurs puisque tout a été fait pour l'agriculture intensive avec des pesticides, des produits phytosanitaires. Alors il y a une deuxième technique qui est très simple, que en général les jardiniers appliquent chez eux, dans leur petit potager, et puis là on voit que ça peut marcher aussi à grande échelle, c'est couvrir le sol.
Ben oui, c'est tout simple en fait. Quand on a un sol couvert, ça limite l'évaporation. C'est très connu de la plupart des paysans hein, qui sont dans l'agriculture biologique ou naturelle parce que justement, ils ont besoin de limiter au maximum les intrants et de favoriser le fait que la plante s'adapte hein, au sol. Et c'est vrai, quand on a un sol qui est couvert par un peu de végétation, qu'on voit la plupart du temps dans les champs qui sont cultivés en bio, que ce soit des vignes bio ou d'autres types de produits agricoles bio, vous avez toujours des fleurs, fleurs, des herbes, parfois même des arbres, et on s'aperçoit qu'effectivement, un sol couvert, ben, il y a de l'ombre, et en l'occurrence, quand c'est un paillage en bois, ça protège le sol de l'évaporation de l'eau, et la terre reste là aussi vivante et disponible. Mais le même problème se pose avec les engrais, qui en fait entretiennent pour la plante une espèce de condition totalement artificielle qui dépend des intrants qu'on met à chaque fois, alors que la plupart des végétaux qui étaient cultivés il y a 50 ans, qui ont d'ailleurs disparu depuis, étaient totalement adaptés et diversifiés en fonction de l'endroit où ils poussaient. Donc vous avez plusieurs variétés de tomates, je crois qu'il y en a plus d'une centaine, aujourd'hui il y en a à peine 12 qui sont encore cultivées et 5 seulement qu'on trouve en grande distribution, mais vous aviez des tomates qui étaient différentes en fonction de l'endroit où elles étaient cultivées. Aujourd'hui, on cultive les mêmes partout, sur tous les territoires, et donc forcément, il y a des endroits où elles sont plus ou moins bien implantées. Et si elles n'ont pas la dose d'engrais qui est associée à cette variété, dans certaines régions, effectivement, elles ne fonctionneront pas. Elles ne marcheront pas.
Donc il faut choisir des variétés déjà qui s'adaptent plus ou moins à la sécheresse. Donc ces gens-là d'Ataka ne se plaignent pas de la sécheresse finalement?
Mais pas du tout, parce qu'en fait, là aussi, on parle beaucoup d'eau, hein, puisqu'on est parti de la sécheresse. Hein. Et c'est vrai que ce qui fait frémir, c'est quand on voit en plein mois d'août des jets d'eau en plein après-midi, en plein soleil, qui aspergent, hein, qui arrosent des champs de maïs. Or, on s'aperçoit que si une culture nécessite un arrosage systématique, c'est que la plante, elle n'est pas adaptée au climat, tout simplement. Et le maïs, c'est une plante tropicale, des zones humides d'Amérique centrale, c'est pas une plante qui est adaptée à la France. Or, si on prend des variétés qui sont adaptées au territoire où elles sont cultivées, et y compris d'ailleurs du raisin dans l'Hérault, puisque c'est un des témoignages des producteurs d'Ataka, on n'a pas besoin d'avoir recours à l'arrosage, et pour autant, on cultive une vigne et on obtient un excellent vin.
Voilà, et puis à août, la sécheresse, elle s'en va. Voilà, donc ça, c'est à retrouver, merci Cyril, hein, c'est à retrouver sur votre site cedurable.info pour toutes les traces d'ailleurs, hein, qu'on parle de sécheresse, qu'on parle de voitures les moins polluantes en CO2 ou de nouvelles enseignes sur l'habitat durable et les nouvelles énergies, c'est à retrouver sur cedurable.info. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, Cyril Souche. Merci beaucoup.